Voilà, c'est. Voilà.
Juste une autre question. Au oui. Point de vue rite de prière,
oui.
Est-ce que, quelque chose en gros, on trouve les mêmes
ah non.
Prières?
Non.
D'un endroit à l'autre, c'est totalement différent.
Ben, ça, déjà, les formes de bouddhisme différentes. Mais dans le Theravada, vous allez retrouver souvent les mêmes rites. Mais alors, dans le bouddhisme tibétain, chaque lignée de maîtres aura des rites qui vont varier. C'est toujours le même type de rite, mais ça va être des paroles différentes. Donc, c'est très compliqué.
Merci.
Est-ce qu'il y a des... n'hésitez pas sur une question.
Ah oui, allez-y.
Est-ce qu'il y a des moniales?
Oui.
Est-ce que faire place des femmes? Est-ce que c'est...
Alors,
est-ce que c'est... genré?
Alors, les femmes. Le Bouddha refusait au départ qu'il y ait des moniales. Bon, pourquoi? Alors, on a dit, ah, il était misogyne et tout. Ben non, il ne faut pas céder à l'hystérie actuelle là-dessus. Ça n'a rien à voir. D'abord, ce n'est pas l'époque. À l'époque, c'était 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ. Les femmes, leur place dans l'Inde, c'était au foyer. Et c'était pour avoir des enfants. Hein, c'était ça. Si elles n'étaient pas dans ce rôle-là, elles étaient insignifiantes. Donc, le Bouddha ne voulait pas créer une révolution sociale. Ce n'était pas son but. Donc, il savait que ça allait produire des ennuis pour elles, si jamais il les acceptait comme moniales, parce qu'à ce moment-là, elles sortaient de leur rôle. Donc, il a essayé d'éviter. Et quand il leur a donné la possibilité de rentrer dans l'ordre des moniales, il leur a donné beaucoup plus de règles qu'aux hommes. Pourquoi ? Pas parce que les femmes sont pires que les hommes, mais pour les protéger de la société, pour qu'elles ne soient pas sous le couvert des critiques. Mais maintenant, effectivement, on est dans une société indienne qui est largement misogyne quand même à l'époque, et qui l'est toujours. Donc, il faut voir que ça va changer avec le Mahayana, parce que dans le Mahayana, par exemple, on va beaucoup admettre qu'une femme peut aussi bien atteindre l'éveil qu'un homme, peut être un bodhisattva, une bodhisattva. Il y a donc une sorte d'égalité à ce niveau-là. Et dans le Vajrayana, on dit que les femmes sont plus douées que les hommes. Voilà. Donc, et dans le Dzogchen aussi.
Donc aujourd'hui, tu as des monastères féminins ou mixtes, ou comment ça se passe ?
Il y a des nonneries. Alors, elles ont été longtemps sous la dépendance des moines.
Ah ouais.
Et donc, souvent, le parent pauvre, en quelque sorte, dépendant des enseignements des moines et étant toujours infériorisé aux moines. Mais ça change. Et là, c'est, pour le coup, c'est grâce au monial occidental. Ça a beaucoup aidé. Là, c'est vraiment une évolution du... Et puis, grâce au Dalai Lama, etc., qui, lui, veut laisser une place aux femmes. Mais moi, j'ai un de mes maîtres actuels, c'est Jetsun Kandro Rinpoche. C'est une femme extraordinaire. C'est une moniale. Elle a dû se battre, effectivement, pour avoir le... Parce qu'elle est chef d'un grand monastère, hein, de toute une branche, hein, du bouddhisme tibétain. C'est une femme incroyable. Elle a une capacité de... Elle a une pêche incroyable et elle a une connaissance absolument hallucinante. Et je dois dire que c'est formidable d'avoir un maître femme, quoi. Franchement, ça nous change parce qu'il y a quand même une pléthore de maîtres masculins et finalement pas beaucoup de maîtres femmes. Mais vous voyez, il n'y a pas cette espèce de truc d'interdit du sacerdoce pour les femmes. Pas du tout. Voilà. Ce n'est pas idéal, mais c'est peut-être un peu mieux que dans beaucoup d'autres religions à ce niveau-là pour les femmes.
Et alors, tu as fait part justement la situation du bouddhisme en Occident,
mm-hmm.
qui est particulière.
Oui.
Je sais que tu as évoqué plusieurs fois ici le fait que le bouddhisme en Occident a fait un effet retour très négatif sur le bouddhisme originel, voire le.
Pas négatif, mais.
Était une sorte de trahison.
Non, c'est les Occidentaux qui sont redoutables pour dépecer tout ce qui leur arrive à porter. C'est-à-dire qu'on est des consommateurs. On est d'anciens colonialistes et on est également des consommateurs. Et c'est toujours la même saisie, la même convoitise. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, quand on a une méthode spirituelle qui arrive, on la dépece, parce qu'on prend les trucs qui nous intéressent et le reste, on le laisse tomber. Quand ça ne nous plaît pas, on le laisse tomber. Voilà. Et donc, on instrumentalise. On décortique tout et on instrumentalise. Et après, en fait, ça devient une espèce de pauvre chose qui n'a plus rien à voir avec l'original. Donc là, moi, je suis parmi les gens qui sont un peu les chiens de garde pour le bouddhisme, pour éviter justement cette dégénérescence, parce que regardez ce qu'on a fait du yoga. On en a fait une gymnastique pour mémé. Voilà.
C'est l'aspect,
Alors que c'est une véritable voie spirituelle complète en Inde.
Hein? Donc là, tu critiques ce lien avec le développement personnel.
Ah, bah, totalement.
Réduire.
Ah, bah, c'est spirituel. Alors, le pire, c'est les coachs qui maintenant sont des managers d'entreprise, qui vont apprendre à leurs employés la méditation. Mais ce n'est pas pour leur bienfait. C'est pour le bienfait de l'entreprise. Il faut arrêter. C'est scandaleux.
Ce matin, dans le journal belge, ce matin, dans le camp, il parlait de médiation pour l'entreprise et le bienfait que ça
fait. Ah, bah oui, non, mais il y a des bienfaits, oui. Mais il faut voir quelle est l'intention qui est derrière. Si c'est l'exploitation un petit peu plus efficace des êtres, des individus, moi, je ne suis pas pour. Parce que là, c'est une déviation de la spiritualité.
Mais c'est pour les deux. C'est pour le bien de la personne et du collectif.
Oui, mais bon, ne soyons pas.
Il n'y a pas forcément de.
Ouais, bon, franchement, après avoir eu les burn-out qu'on a eu, etc., là, ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même qu'ils changent un peu le mode de management. Mais bon, franchement, ils n'ont pas envie que les gens s'éveillent, parce que s'ils s'éveillent, les gens, ils n'iront plus à l'entreprise.
Si vous me permettez, d'abord, une petite remarque, une petite réaction. Le yoga, moi, j'en fais beaucoup. Hein.
Oui.
Ça n'est pas qu'un sport pour mémé. Garantie que l'ashtanga, il faut vous accrocher quand vous en faites plusieurs heures. Bah, ça, c'est, je ferme la parenthèse, mais il faut avoir une bonne condition physique, d'autant plus que ça aide à avoir le stress et c'est très bon pour le corps.
Mais voyez, le yoga n'est pas fait pour se libérer du stress, c'est un effet secondaire.
On est d'accord.
Quand on le met en avant, on pervertit un peu ce qu'est le yoga, c'est tout.
Oui.
Mais j'ai compris le fait pour le vrai yoga.
J'ai compris la critique. Alors j'ai une question, pardonnez-moi, j'ai une question qui me taraude un petit peu. Moi, je suis chrétien catholique.
Oui.
Dans l'Ancien Testament et les origines de l'homme telles qu'elles sont décrites par la Bible, et puis la réflexion qui est faite sur la création de l'univers. Commencement, au début il y avait le Verbe et le Verbe était Dieu et tout ce qui a été fait par Dieu, voilà. Bon, donc la religion chrétienne s'interroge sur l'origine de l'homme, sur l'origine de l'univers, voire par référence moderne au Big Bang. Et je me demandais, est-ce que la religion bouddhiste a cette réflexion par rapport à la création de l'univers, à l'origine de l'homme et à l'évolution
Oui et non, parce que oui, bien sûr qu'il y a une forme de cosmologie, etc., dans le bouddhisme, qui accompagne le bouddhisme, mais on s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de commencement. Parce qu'il y a toujours des causes à quelque chose. Donc, il n'y a jamais eu de commencement absolu. Ça, c'est une idée totalement occidentale, et même le Big Bang, c'est une idée chrétienne. Il ne faut pas l'oublier que monsieur, comment il s'appelle,
le prêtre belge.
Ben oui, c'est un prêtre qui a inventé le Big Bang. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est juste une ressucée scientifique, si vous voulez, d'un principe théologique. Ce que je veux dire, c'est que le concept…
l'existence oui. possible de ça.
Alors, qu'est-ce que dirait un bouddhiste à ce niveau-là ? Ben, il dirait qu'il y a un grand univers qui n'a ni commencement ni fin, dans lequel il y a des univers qui naissent et qui meurent. Voilà. Donc, il y a des bangs, il y a des mini-bangs, il y a des mini-crashs, mais il n'y a pas de unité, enfin, de bang primordial, si vous voulez, à tout. Et tout simplement parce qu'il y a une forme d'illogique là-dedans. Pour le bouddhisme, c'est cause et condition. Et les causes et conditions interdépendantes, elles sont toujours des causes et conditions interdépendantes et on remonte toujours à d'autres causes et conditions. Donc, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et de même, dans l'esprit, il n'y a ni cause. Il n'y a pas de fin non plus, ni de commencement dans l'esprit.
Et sur l'origine de l'homme ?
L'homme, il est né dans d'autres univers avant celui-ci. Donc, de toute manière, c'est simplement une forme d'existence parmi 6 possibles. Et on peut passer d'une existence sous une forme à une autre. On n'est pas voué à être humain tout le temps.
Y compris animal.
Pendant cette vie, ça c'est sûr, on ne va pas changer en chien maintenant, mais rien ne nous dit que dans la vie suivante, si on a fait suffisamment de stupidité, on ne renaîtra pas à quatre pattes. Ça dépend complètement de nos conditionnements. Et qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? si on s'abrutit toute cette vie, on peut renaître sous une forme animale.
C'est quoi, quelles sont les six formes?
Eh bien, il y a des formes divines, mais qui sont simplement des formes en quelque sorte de vie temporairement supérieure, mais qui retombent à un moment donné, et c'est pas conseillé. Il y a les titans, c'est-à-dire, enfin, ce qu'on pourrait traduire par les titans, c'est des antidieux, des dieux qui sont jaloux et qui se battent contre les dieux parce que les dieux ont plus qu'eux. Donc, c'est, vous voyez, on trouve beaucoup ça dans la politique, dans le managériat, etc. C'est un peu ce milieu-là, vous voyez, ce milieu qui est très, qui est tout le temps en bagarre contre les autres pour avoir plus. Et puis après, il y a les êtres humains. Et eux, c'est le désir qui domine les êtres humains. Les titans, donc, c'est la jalousie. Les dieux, c'est l'autosatisfaction. Ce sont des modes, en fait, d'illusionnement liés à différentes émotions négatives entretenues. Les animaux, c'est la stupidité, l'égarement, la non-compréhension des choses. Alors, je ne dis pas que les animaux sont tous stupides, hein, mais ils ont une forme de stupidité certainement supérieure à celle des êtres humains. Bon, les êtres humains font beaucoup de conneries grâce à leur intelligence, malheureusement. Mais c'est encore autre chose. Mais nous, on est totalement dans le pourquoi, toujours plus. Voilà, ça, c'est ce qui caractérise le monde humain. Et c'est d'ailleurs pourquoi des bouddhistes vont vous poser la question, pourquoi toujours plus, alors que plus ne sera jamais assez.
Hein, le plus de l'infini.
Mmh. Le plus de l'infini. Oui, oui, sauf que là, notre monde, il est fini. Et qu'on va bientôt le découvrir. Hein. Donc, mais c'est pas grave, il y a d'autres univers. Bon, mais ça dépend comment on raisonne. Hein. Si on raisonne sur des vies et des vies, bon, si cette terre explose, bon, bah, on en trouvera une autre. C'est pas grave, il y en a d'autres.
D'un point de vue de la compassion, c'est pas très bien d'avoir cette attitude-là, c'est ça?
Bah oui.
C'est par compassion qu'on s'intéresse à l'avenir de la terre, des êtres humains.
Bien entendu. Il ne s'agit pas de recréer à nouveau de la souffrance, encore plus. Je veux dire, ça n'a pas de fin. Je veux dire, et on va trimballer ça en plus, parce que si on l'a créé, on en aura soi-même à en subir, parce que c'est une loi finalement de cause à effet. Et alors, donc, pour terminer, il y a aussi les prêtas, c'est les gens qui sont dans l'avidité. C'est quand on est dans l'avarice, dans l'avidité, le fait de garder tout pour soi, ça amène un état de manque permanent. On ne trouve pas une goutte d'eau pendant des siècles, ni la moindre nourriture, et on est dans un état de frustration permanente. Donc, ce n'est pas terrible. C'est presque un enfer, mais ce n'est pas vraiment un enfer. Et puis, les enfers, bah, c'est lié à la violence, à la colère, au fait de détruire la vie. Et ça nous amène en fait à une agression permanente dans laquelle on est plongé soi-même. Et on est totalement agressé par tout le milieu, et c'est le résultat en fait d'un comportement extrêmement violent et agressif à l'égard d'autrui. Voilà. Et en fait, ce sont des emprisonnements qui sont créés par notre esprit. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas, il n'y a pas un enfer qui nous attend. C'est nous qui allons créer par nos propres conditions. Mais nous y resterons tant que ces conditions ne seront pas nettoyées. Mais on en sortira. Parce que rien n'est définitif. Vous voyez, on n'est pas dans le définitif.
Il y a de l'espoir.
Mais oui, de toute façon. Enfin, c'est quand même, c'est un peu hard aussi, hein, quand même.
Surtout pour ceux qui font du yoga.
Je sens qu'on vous taquine. Hein.
Je sens, oui, je peux comprendre. Ouais. Merci, Xavier.
Il y a
un
point. Vas-y.
Je voulais savoir d'abord s'il y avait eu des influences, justement,
Attention, son fils est devenu un arhat, il s'est libéré.
D'accord.
Et sa femme aussi. Bon.
Il a quand même passé son temps sur les routes.
Oui, tout à fait.
Ouais, et oui. Du coup, est-ce que c'était ça, enfin, voilà, je ne sais pas, il n'y avait peut-être pas la volonté au départ de créer une religion.
Non. C'est
la volonté, lui.
C'est ce que je dis souvent, le Bouddha n'a pas créé le bouddhisme.
Voilà, donc c'est ça, c'est comme le
christianisme. Ben voilà, c'est ça.
Donc, est-ce qu'au départ, c'est comme. Parce qu'il y a quand même énormément de monastères, de moines.
Oui, oui.
C'est pas une religion, quand
même. Oui, mais vous savez, l'état monastique dans le bouddhisme, c'est considéré comme une voie médiane. C'est-à-dire, c'est pour éviter l'accaparement de la vie laïque qui ne peut pas s'occuper de sa spiritualité parce qu'il faut, gagner sa croûte, il faut nourrir sa famille, etc. Donc, c'est très occupant. Et puis, d'autre part, éviter l'ascétisme extrême, comme en Inde, ça existe, notamment chez les Jains et aussi chez certains hindous. Le bouddhisme a toujours préconisé une voie médiane. Dans le bouddhisme, on ne fait pas de jeûne ou des jeûnes courts, hein, juste pour des questions vraiment de pratique. Mais jamais on fera des jeûnes dangereux, etc. On fera pas de, il y a pas de, on va pas se flageller quoi. C'est pas du tout le genre. Donc le moine, c'est une voie médiane et c'est un moyen en quelque sorte de renoncer à un certain nombre d'activités pour se consacrer vraiment au chemin. Voilà.
Ça, mais si on ne le fait pas et si on est dans la vie active et qu'on travaille, finalement, on a
une chance. Bah, non, oui et non, parce que dans le Mahayana, non, dans le Mahayana, on donne des pratiques aussi pour les laïcs. Et ça permet aux laïcs aussi de se mettre en marche vers l'éveil. Et puis dans le Vajrayana, bah, y a énormément de yogis qui sont mariés. Hein, les yogis ont une vie de famille et ils transmettent d'ailleurs de génération en génération dans leur famille les initiations. Donc, il y a tous les cas. Ouais.
Pour compléter la question, l'influence du bouddhisme sur le judaïsme?
Je ne pense pas. Mais, mais par contre, il y a des parallèles entre la Kabbale et les Tantras. Il y a des parallèles. Je peux vous, même vous le dire qu'on l'a vécu en direct avec un de nos amis rabbins, Gabriel Agaï, qui nous a fait faire des exercices spirituels lors d'une réunion. On était en fait les cinq religions principales. Et il nous a fait une méditation un matin, ça ressemblait, mais comme deux gouttes d'eau, sauf que c'était avec un Aleph et non pas avec un A primordial comme dans Dzogchen, mais c'était un exercice qu'on aurait pu avoir dans Dzogchen. Ça, c'était un exercice avec des visualisations, avec des syllabes germes, avec des rayonnements et une répétition d'une sorte de courte prière à Adonai qui ressemblait à une forme de mantra. Donc, vous voyez, il y a des éléments qu'on va retrouver comme ça. De même qu'on va retrouver ça dans la philokalie et dans la récitation de la prière du cœur, dans le christianisme oriental, surtout. Enfin, bien sûr, ça existe aussi maintenant dans le christianisme occidental, mais c'est quand même fondamentalement le cœur de la prière du cœur, c'est vraiment dans le catholicisme orthodoxe. Et là, il y a des points qui sont communs, parce que dans le catholicisme orthodoxe, par exemple, on parle du pneuma, on parle des pneumatiques, c'est-à-dire on utilise beaucoup le souffle dans la prière. Ça ressemble beaucoup à un yoga, c'est un yoga chrétien. Donc, il ne faut pas avoir que… Il y a automatiquement, hein, les êtres humains, à un moment donné, l'esprit humain, il est partout à peu près le même dans son fondement, et on va avoir des sortes de méthodes qui vont fonctionner et qui vont se retrouver. Et il n'y a pas forcément une influence directe. Hein, faut pas penser qu'il y a automatiquement une influence de l'un sur l'autre. Donc, non, le bouddhisme, je ne pense pas qu'il ait d'influence sur le christianisme. Par contre, il a eu une influence sur le manichéisme qui s'est nourri du bouddhisme, du christianisme, Mani, hein, il était un peu… et du zoroastrisme. Mais qui…
Les êtres arc-en-ciel, par exemple, c'est quand même étonnant. Enfin, c'est vrai que ça ressemble à la résurrection de Jésus.
Ah ben oui, oui, oui. Donc, être… Justement, ben, c'est la thèse de Tiso que nous, on s'efforce de gentiment démonter, mais avec lui. Dans ce cas-là, le Christ n'est plus le seul à l'avoir fait. Donc, ça remet en question la primauté du Christ par rapport à ce phénomène unique. Donc, ça a aussi des conséquences théologiques. S'ils admettent le corps d'arc-en-ciel des bouddhistes, ça veut dire des choses par rapport à leur théologie. Il faut qu'ils révisent. Donc, c'est intéressant, cette discussion qu'on a en ce moment là-dessus. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas, comme il peut y avoir, d'ailleurs, il y a pu y avoir une question qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui, à savoir que c'est une religion qui naît dans un contexte qui part du, qui constate que la vie humaine est souffrance et qui construit tout son chemin spirituel là-dessus.
Ah oui.
Or, et on a pu avoir ça dans, dans le christianisme, on peut imaginer que le paradis, à un moment, il est imaginé comme un contrepoint d'une vie terrestre et pénible, etc. Or, la vie humaine, elle n'est pas que souffrance.
Non.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose...
Mais dans le bouddhisme, on ne dit pas que tout est souffrance non plus.
Ah d'accord. Parce que,
non, 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 non. Mais on dit que tant qu'on a...
Qu'est-ce que fait le bouddhisme du bonheur?
Ah ben le bonheur, on s'en réjouit, on l'offre.
Mais c'est quoi alors?
Quand il y a un moment de bonheur, il faut l'offrir, enfin on l'offre mentalement à tous les Bouddhas de façon à ne pas le saisir. Parce que de toute façon, quand on saisit le bonheur, on sait ce que ça donne. Hein. C'est que ça fait mal après, parce que le bonheur, ça ne dure pas.
Mais il faut pas, est-ce qu'il faut se libérer du bonheur en ce moment-là?
Il faut se libérer de l'attachement au bonheur. Mais pas du bonheur.
Une sorte de, c'est ça, du bris qui parle de la gratitude.
Ah mais oui, mais le bouddhisme n'a aucune attitude masochiste. Hein.
Je dis bonheur.
Ça, D'ailleurs, vous ne verrez jamais un moine qui fait la gueule. Enfin, moi, j'en ai jamais vu. Hein, des maîtres, j'ai jamais vu des maîtres qui font la gueule. Ils sont tous joyeux comme tout. Ouais. Et c'est des gens qui respirent la joie de vivre. Mais ils ont une discipline et ils essayent de ne pas trop se tromper dans la vie.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a toute une réflexion sur la souffrance.
Oui.
Il y a un peu sur la... Je n'entends pas sur la joie, par exemple.
Ah, mais si, mais il y a les quatre joies. Il y a, par exemple, la béatitude, la félicité, dans les tantras, est utilisée pour atteindre la vacuité. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si on obtient des états de béatitude par les yogas, ouais, on va souffler l'esprit ordinaire et on va atteindre la nature de l'esprit. D'accord. C'est un moyen aussi de l'atteindre. D'accord. Par la félicité.
C'est déjà un signe.
Bien sûr. D'où certaines pratiques qui utilisent la sexualité. Ouais. Mais ce n'est pas pour la sexualité.
Ouais, ouais.
On s'en fout complètement. C'est parce que c'est une des forces les plus intéressantes dans l'existence pour transmuter les choses, si on a les bonnes méthodes, en spiritualité. Mais attention, la plupart se plantent. Ouais. Donc, ce n'est donné qu'à des yogis expérimentés. Et en Occident, ce n'est quasiment pas enseigné parce qu'on sait que les gens, ils ont plutôt une problématique avec la sexualité à régler, ce n'est pas le moment de leur donner des yogas avec ça. Ils sont trop immatures. Hein? Donc, bah oui. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça. Alors, souvent, on dit le tantra, bah oui, les trucs sexuels. Non, les trucs sexuels, je veux dire... Moi, j'ai reçu 40 ans d'enseignement sur les tantras, je n'ai jamais reçu une pratique de cet ordre. Et ce n'est pas parce que je n'aurais pas forcément la capacité, mais c'est qu'il faudrait que je me mette en retraite longue et que j'ai une compagne certaine qui ait eu les mêmes initiations que moi et qui ait les mêmes capacités à développer. Parce que les deux doivent s'éveiller à ce moment-là, ensemble. C'est une conjonction des énergies de deux individus. Mais c'est surtout pas utiliser l'énergie de l'autre. Sinon, c'est du vampirisme. Donc, vous voyez, non, et là, il y a des règles extrêmement précises d'éthique, hein, pour le coup. Hein. Ben, ça n'empêche pas des ozos de profiter de cette espèce d'ambiance pour faire des stages de tantra où ils se tapent des petites minettes pendant les week-ends.
Je ne chante plus.
Le Kama Sutra, c'est du sérieux. Hein. Le Kama Sutra, c'est du sérieux.
Ben, le Kama Sutra, qui est dans la tradition plutôt hindoue, en fait, c'est des règles pour vivre bien un des buts de la vie qui est l'amour sensuel. Ça fait partie des quatre buts de l'existence. Il y a Artha qui est donc les buts en fait de réussite dans la vie. Il y a Kama qui est donc le l'amour sensuel. Il y a je sais plus les autres. Je suis fatigué ce soir. Mais enfin, il y a quatre buts dans l'existence. Voilà. Mais je peux encore parler des heures, mais je suis un peu fatigué sur certains points.
Et donc, c'est un peu comme le yoga, le Kama Sutra, David.
Je poursuis ma quête vers l'éveil.
Oui, ben vous faites bien. Ne les écoutez pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
C'est pour ça que je leur pardonne.
Voilà, c'est ça.
Bon.
Bah, si vous avez des questions, je ne sais pas, ou si vous en avez encore.
Oh, on en aurait encore plein, mais.
Ah oui, hein, c'est un sujet, c'est sûr.
C'est une question un peu bête, mais qu'est-ce que vous pensez de Mathieu Ricard de
Mathieu Ricard,
ce qu'il transmettre?
Alors lui, c'est le moine médiatisé. Voilà. Parce que vous savez, les médias, comment ça fonctionne? Ils ne veulent pas se casser la tête, donc il leur faut un représentant pour quelque chose, c'est tout. Mais quand même, quand Mathieu Ricard n'est pas disponible, c'est à moi qu'on fait appel. Voilà. Mais je suis toujours le second. Vous voyez, bon, je n'en prends pas en branche parce que j'aime bien Mathieu. Non, c'est quelqu'un de très sérieux, hein, Mathieu. Mais il n'est pas forcément amené à faire une interface avec un public, je veux dire, d'occidentaux, parce qu'il est trop monastique quelque part.
D'accord.
Voilà. Mais par contre, il fait un boulot humanitaire au Népal absolument hallucinant. Et après les tremblements de terre de Katmandou il y a quelques années, vous savez, dans son monastère, ils ont recueilli 2000 personnes qui étaient sans abri. Ils avaient des réserves d'eau qui étaient prévues en cas de tremblement de terre. Donc, ils ont pu vraiment nourrir et abreuver les gens pendant 2 mois avec les réserves d'eau qu'ils avaient. Et après, il a lancé tout un programme d'entraide dans les villages qui étaient complètement paumés, qui étaient coupés, les routes étaient coupées, etc. Puis le gouvernement népalais est totalement corrompu, à tel point que les tentes qui étaient amenées pour aider les gens qui étaient sinistrés, le gouvernement népalais avait trouvé le moyen de mettre des taxes sur des choses qui étaient données. C'est vous dire la corruption qu'il y a. Et donc, heureusement qu'il y avait les moines qui ont énormément aidé les gens qui étaient vraiment dans des états vraiment de détresse terrible. Ça a quand même secoué très fort. Hein. Moi, j'avais des amis qui étaient à Katmandou à ce moment-là. Ils étaient dans un parc, heureusement, au moment où c'est arrivé, mais ils ne pouvaient pas tenir debout. Hein. Ils tombaient, ils se cassaient la figure dès qu'ils se relevaient. C'est impossible de tenir debout. C'était quand même un tremblement de terre très violent. Quoi.
Le Népal est une société bouddhiste
hindoue, essentiellement, avec une minorité bouddhiste de, disons, 10-15%. Mais avec beaucoup de réfugiés tibétains qui sont sortis du Tibet et qui ont été accueillis, disons, dans la région, surtout de Katmandou.
Refusés par les Chinois.
Ah ben, les Chinois, c'est pas compliqué. Maintenant, ils s'arrangent à graisser la patte aux douaniers et aux flics népalais, qui leur renvoient les Tibétains, et les Tibétains vont dans les camps de concentration. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a c'est toujours pareil, c'est la corruption. Et puis les Chinois s'installent au Népal. C'est eux qui font les routes, c'est eux qui font les barrages. Et c'est au Népal. Oui, oui. Donc ils prennent petit à petit emprise sur le Népal. Le Népal est en sursis. Hein. Entre l'Inde et les convoitises chinoises, c'est un pays qui est vraiment très délicat. Non, non, la situation en Asie, elle n'est pas très drôle. Moi, je suis allé au Tibet 2 fois. Je peux vous dire qu'en 2 ans, j'ai vu la différence de répression. C'est monstrueux.
Malheureusement, le monde international
le fait absolument. Ben oui. Ben oui. Mais si vous voulez, je n'ai jamais vu autant de caméras de surveillance, autant de micros. Maintenant, même dans les cars de tourisme, on n'a même plus un flic pour, soi-disant, veiller à ce que la vitesse ne soit pas dépassée par le chauffeur. C'était le prétexte. Non, maintenant, il y a des micros et des caméras. Donc, si vous parlez du Dalai Lama, vous dites Alain Delon ou autre chose, vous voyez. Mais il ne faut surtout pas parler du Dalai Lama. Quoi.
J'avais la même attitude en Éthiopie et dans beaucoup de pays africains ou la Chine.
Ah ben oui, bien sûr. Mais ils sont en train de…
Le même système.
Oui, et puis ils vont nous vendre leur système de surveillance.
Oui, mais attendez, ils arrêtent d'envoyer les fonds produits et d'autres. Hein. Ils font comme ça, ils font…
Oui, mais c'est ce que je dis toujours, merde in China. Oui, mais non, mais en même temps, ils ne font pas que la merde. Hein. Attention, ils sont très bons en technologie maintenant. Oui, 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 oui. Oui, oui.
J'ai une dernière petite question.
Oui.
J'ai une dernière petite question. On connaît l'importance des travaux récents sur les neurosciences.
Oui.
Sur notamment par rapport à la méditation et
oui,
ce degré de conscience. Est-ce que, pour faire court, est-ce que la science est venue valider ou expliquer un certain nombre de pratiques, notamment en ce qui concerne certains degrés de conscience? auquel on peut parvenir par la méditation.
Oui, ça valide, oui, mais c'est pervers aussi parce que quelque part, ça donne une idée que la méditation, ça influence quelque chose dans le cerveau et que finalement, l'esprit, ça serait une affaire de cerveau. Ce n'est pas du tout le cas. Le cerveau, c'est juste l'organe de réception de l'esprit, mais ce n'est pas l'esprit. Donc, l'esprit n'est pas d'ordre matériel. Le cerveau, c'est l'organe matériel de notre corps qui permet les fonctions de l'esprit. Mais c'est tout. Donc, de tout valider par des expériences sur le cerveau, ça revient à dire que l'esprit, c'est un produit du cerveau. Et donc, c'est une vision matérialiste. Et ce n'est pas du tout une vision spirituelle. Voilà. Et donc, pour les chrétiens, il faut faire attention aussi à cet aspect-là, parce que même j'ai vu des auteurs chrétiens qui ont une tendance à obtempérer presque aux impératifs matérialistes de la science, qui n'est pas neutre, hein, qui n'est pas neutre. Elle est aussi, malheureusement, assez idéologique, la science.
Oui.
Ah oui. Voilà.
Merci beaucoup, Philippe.
Merci.
Officiel.